France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des carnets tout doux. Cette semaine, le département du Doubs est à l'honneur puisque le jeu des 1000 euros a posé ses valises à Anteuil, entre Besançon et Montbéliard. Et la valise, justement, est au programme des carnets avec une exposition singulière proposée par le musée de la résistance et de la déportation de Besançon. Valise, histoire d'un objet dans la guerre. Avant cela, j'ai un conseil conso. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Voilà qui peut être utile en cette période d'achat de cadeaux. Un site de vente en ligne où l'on est sûr d'acheter local. Le label Origine France Garantie, qui existe depuis 15 ans, lance à présent sa boutique en ligne. Bonjour Gilles Attaf.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association qui porte la certification Origine France Garantie. Expliquez-nous d'abord, s'il vous plaît, quels sont vos critères pour décerner ce label?
Alors, on a une certification, encore une fois, on n'est pas un label. Ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont faits, des audits qui sont faits pour certifier les gammes de produits. On mandate, nous, des organismes indépendants, comme le Bureau Veritas ou l'AFNOR, qui sont des grands organismes certificateurs, sur une base, sur un cahier des charges, sur un socle qu'on a déterminé avec deux critères cumulatifs qu'on doit absolument avoir pour être certifié Origine France Garantie. Le premier étant que toute la fabrication, toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français, c'est le terme exact. Et le deuxième critère cumulatif, c'est qu'à minima 50% du prix de revient unitaire sorti d'usine doit être acquis sur le territoire français. Donc, ça peut paraître très exigeant, mais en fait, c'est en opposition au Made in France régi par le Code des douanes européen, qui dit qu'une opération substantielle d'un produit peut vous permettre d'être Made in France. Et en plus, c'est déclaratif, puisque les contrôles se font lorsqu'il y en a par les douanes. Et hélas, les douanes n'ont pas énormément de moyens. Donc nous, en fait, à chaque fois que vous achetez un produit certifié Origine France Garantie, c'est le Made in France Garantie.
Oui, comment comprendre que de nombreuses marques affichent sur leur étiquette ou sur leur emballage cette mention Made in France sans avoir la certification Origine France Garantie?
C'est tout à fait légal, hein, encore une fois. Le Made in France est régi par l'Union Européenne, par le Code des douanes européen, comme tous les Made in au sein de l'Europe. Je vous rappelle quand même qu'au sein de l'Union Européenne, le marquage d'origine n'est pas obligatoire, sauf dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire que lorsque vous produisez sur le territoire européen, que vous vendez sur le territoire européen, le marquage d'origine d'un produit n'est pas obligatoire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner de la traçabilité. Ce qu'on veut, c'est rassurer le consommateur. Ce qu'on veut, c'est que lorsqu'un consommateur a envie d'être sûr que lorsqu'il vote avec sa carte bleue, derrière, ça participe aux emplois, ça participe à l'économie française. Et c'est ça que nous, on porte avec Origine France Garantie.
Votre certification existe depuis 15 ans et vous venez tout juste, je le disais, de lancer cette boutique en ligne qui propose plusieurs marques. Je me pose une question, Gilles Attaf. Pourquoi seulement maintenant? Ce site a-t-il été difficile à mettre en place?
Alors, elle n'a pas été difficile, mais il demande certains moyens. Vous savez, on est une association à loi 1901 à but non lucratif, donc ça quand même demande quand même certains moyens. Et puis, il fallait aussi qu'on ait un certain volume d'entreprises pour avoir une offre qui soit assez large. On dit toujours qu'il n'y a pas d'offre suffisante dans le Made in France. Donc là, nous, on va prouver le contraire, qu'on est sur tous les secteurs d'activité. Ce qui est intéressant avec Origine France Garantie, c'est qu'on travaille d'une manière transverse. On fabrique, on certifie sur tous les secteurs d'activité. On n'est pas un référentiel de filière, on n'est pas un référentiel géographique, on travaille sur tous les produits qui peuvent être fabriqués sur le territoire français. On a ouvert depuis 15 jours la plateforme, on est déjà à plus de 1000 produits qui sont sur le site.
On y trouve notamment des chaussettes, des produits de beauté, des parapluies, du thé, des couteaux, des biberons, le panel est très large. Et j'ai été étonnée d'y voir également des coques de téléphone portable. Ça, c'est vraiment le produit qu'on n'imagine pas fabriquer en France, Gilles Attaf.
Oui, alors ça, c'est important parce que ça fait aussi partie... La plateforme doit aider nos adhérents à faire de la croissance, mais aussi ça doit être une plateforme pédagogique. On dit souvent, on ne peut pas fabriquer en France des produits en grande quantité, de grande consommation. On a la coque de téléphone, effectivement, qui est proposée sur le site Origine France Garantie parce qu'il y a des opérateurs qui ont décidé de jouer le jeu, de donner du volume. Quand vous avez avez des volumes, vous pouvez travailler sur la compétitivité, sur la robotisation, ce qui vous permet d'être plus compétitif. On a même une brosse à dents de la brosserie française qui est à moins de 1 euro pour le grand public. Donc vous voyez comme quoi on bat en brèche aussi avec cette plateforme l'idée que obligatoirement le Made in France c'est toujours plus cher, et nous on essaye de combattre et d'expliquer que on est encore en capacité de produire à des prix tout à fait raisonnables.
On compte, je crois, 800 entreprises qui sont certifiées chez vous aujourd'hui. Vous le disiez, il y a 1000 produits à vendre sur votre boutique en ligne. C'est bien peu pour faire face aux géants comme Chine.
Ah oui, le combat, mais on renonce pas. Le combat ne fait que commencer. Nous, on se bagarre beaucoup. Effectivement, on part de loin. Vous savez, la production française, on part de loin. On nous a vendu pendant des décennies que l'atelier du monde serait en Chine, que la France serait un pays de tertiaire. Donc, il faut reconstruire. Il faut pas renoncer. Il faut consommer moins, mais mieux des produits fabriqués en local, qui vont aider à relancer notre ascenseur social, qui est quand même bien endommagé, de retisser du lien territorial, parce que c'est dans les territoires que ça se passe. Donc, c'est tout ce que doit porter notre plateforme Origine France Garantie aujourd'hui. Il faut vraiment regarder. Moi, j'encourage beaucoup à regarder les étiquettes, parce que nous, on combat beaucoup le franco-lavage, parce que certains utilisent l'image de la marque France, l'immatériel de la marque France, en mettant du bleu, blanc, rouge, ou en mettant du drapeau français, alors que c'est pas fabriqué en France. Donc, regardez bien les étiquettes. Et si vous regardez et que vous trouvez le logo Origine France Garantie, vous pouvez être rassuré et consommer en toute quiétude.
Ce que vous appelez le franco-lavage, ce serait l'équivalent du greenwashing, prétendre qu'on est made in France alors que pas du tout.
C'est exactement ça. Et on a estimé, grâce à nos amis de la FIMIF, la Fédération indépendante du Made in France, que ça représente presque un manque à gagner de 5 milliards. Donc vous voyez, tous ces gens qui utilisent l'image de la France pour la détruire. On parlait de Chine tout à l'heure. Vous savez, c'est la double peine. C'est non seulement vous payez pas de taxes à l'arrivée en France, mais en plus vous détruisez des filières. Donc il faut que le consommateur se pose les bonnes questions. Encore une fois, le Made in France, ça doit être du temps long avec une vision effectivement sur l'avenir.
Voilà, rendez-vous sur le site internet Origine France Garantie pour cette boutique en ligne. Et je précise qu'on y trouve aussi des cartes cadeaux si on préfère ne pas choisir soi-même
Absolument.
Le cadeau. Merci beaucoup Gilles Attaf.
Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup.
Bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
Peu d'objets du quotidien peuvent raconter autant d'histoires que les valises. Le musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon propose en ce moment, et jusqu'au 4 janvier, une exposition consacrée aux valises. Histoire d'un objet dans la guerre. Bonjour Aurélie Cousin.
Bonjour.
Vous êtes chargée des collections du musée de la Résistance et de la Déportation à Besançon. Comment est née l'idée de cette expo au départ ?
Alors au départ, on s'est interrogé, donc l'équipe du musée, sur tout ce qu'il pouvait y avoir dans nos réserves, sur cet objet en fait qui voyageait des familles, des descendants lors de propositions de dons jusqu'à nos musées. Et en fait, c'est toute une histoire du patrimoine, nous, qui nous intéresse, de s'interroger sur ce que nous conservons. Et puis, il y avait cet objet qui était là, qui a été dans le fond de nos têtes en fait pendant un certain temps durant le projet de rénovation du musée. Et on s'était dit que cette exposition, il fallait la faire et qu'elle serait parfaite dans le nouveau ton du musée que l'on souhaitait en fait développer, puisque le musée est devenu musée d'histoire outil citoyen.
Votre musée a été créé par une survivante des camps de Drancy et de Bergen-Belsen, Denise Lorac. La vocation de votre musée, c'est d'être un outil citoyen, vous le disiez, un outil de transmission et de vigilance. Comment cette expo valise s'intègre-t-elle dans la mission du musée ?
Alors, effectivement, notre musée s'interroge sur le passé et développe en fait les enjeux contemporains qui sont liés. La valise nous semblait être l'objet parfait puisqu'elle traverse le temps. Elle fait partie de l'imaginaire de la Seconde Guerre mondiale avec le vélo, avec cet objet qui finalement est en lien avec tous les possibles. Et c'est un objet qui est au plus près des humains, des hommes, des femmes et des enfants qui vont vivre ce conflit. Donc, c'était important aussi de faire un vrai pont entre le passé et le présent, avec des vies en fait qui racontent la Seconde Guerre mondiale et une histoire qui se vit encore au présent, qui est assez vivante. Nous, on le constate très régulièrement.
Oui, les échos avec aujourd'hui sont très forts. La valise est un objet de migration. Oui. Quand par chance, on a l'occasion d'emporter quelque chose en partant.
Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on a montré dans la première partie d'ailleurs de l'exposition, qui est la valise monde, puisque la valise à la base c'est un monde à soi que l'on emporte, ne sachant pas forcément si l'on va retrouver ce monde-là intact ou non.
Parmi les valises qui sont exposées dans votre musée, il y a un étui de trompette. Vous pourriez nous en parler ?
Oui, alors cet étui de trompette, nous on l'aime beaucoup parce que c'est un objet vraiment chargé d'histoire et puis une histoire assez singulière, hein, celle d'un déporté hollandais qui est étudiant et qui va tenter de fuir le pays pour rejoindre l'Angleterre avec un ami. Et il est musicien, passionné, il joue très bien de la trompette et au moment de son évasion, donc par bateau, la police allemande en fait est en place. Son canot va en fait s'échouer, la trompette va être emportée dans les eaux, il va être arrêté et c'est l'un des objets que vont lui offrir en fait ses parents lorsqu'il sera en camp d'internement avant d'être déporté. Et c'est un objet qui va le suivre tout au long de son internement et de sa déportation. Il va jouer de la trompette au Struthof, il va jouer, intégrer en fait l'orchestre du camp, mais aussi l'orchestre clandestin, donc pouvoir continuer à jouer cette musique jusqu'au bout.
Les personnes qui vous ont prêté ou donné des valises pour cette exposition avaient tous et toutes des histoires à raconter.
Oui, alors en fait, ça a fait partie de notre travail qui a été un travail très enrichissant de partir à la rencontre des valises conservées dans les autres institutions, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. C'était dans nos critères d'analyse d'avoir des valises qui traversent le temps, qui traversent l'espace, qui ont des choses à raconter. Et on a eu cette chance de pouvoir rencontrer des collègues formidables avec qui on a pu échanger sur ces objets. Et on a pu aussi collecter des histoires passionnantes qui sont uniques, mais qui, traversant la Seconde Guerre mondiale, nous permettent de nous adresser à tous les publics pour évoquer cette thématique, que ce soit l'exode, l'occupation, jusqu'à la mémoire, la libération et la mémoire de l'après.
Oui, finalement, c'est aussi une façon de regarder sous un nouvel angle cette période de l'histoire qu'est la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. En fait, on a aussi utilisé ces valises en créant de nouveaux mots valises pour traverser le conflit. Donc on a vraiment valise monde qui permet de parler de la vie d'avant, la valise outil avec les valises du quotidien, ça peut être la valise du marché noir, ça peut être la valise chapelle qui permettait aux aumôniers de continuer à pratiquer donc le culte dans différents camps de prisonniers de guerre, la valise cache qui en fait par son aspect banal permet de dissimuler de précieuses informations, des tracts, des journaux, des faux papiers. Donc c'est vraiment la valise qui n'en est pas une, qui est un vrai outil de résistance. La valise trace avec ce symbole de la valise comme les assassinats que l'on connaît. La représentation d'Auschwitz et ses piles de valises comme les piles de chaussures, les piles de cheveux. Et puis la valise mémoire, c'est la valise du passé, mais aussi la valise du futur, puisque c'est le passé qui revit au niveau des familles et qui, en fait, continue la transmission. C'est un objet transitionnel qui permet aux familles de raconter leur histoire.
Et alors, les valises, on les expose ouvertes ou fermées ?
Eh bien, les deux. Il y a aussi parfois du contenu sans valise. Mmh. Et puis, on a effectivement des valises qui ont tout à dévoiler. On a une valise de billets qui est assez incroyable, qui était la solde de soldats espagnols qui ont fui pour se retrouver en France. Alors ça, c'est vraiment une valise assez incroyable, une valise qui a beaucoup un pouvoir d'évocation. C'est la valise de Juan Saez Thomas qui contient 100 000 pesetas, qui a servi à passer la frontière au moment de la retirada. Une valise qui est assez conséquente, assez importante, mais qui a servi de berceau aussi pour un petit espagnol de 3 mois. Et puis, on a une valise contemporaine, la valise de tous les jours que vous avez peut-être chez vous, que j'ai aussi, et qui a servi et qui sert encore à Christiane Letellier à raconter l'histoire de ses parents, dont le papa était résistant fusillé au Mont-Valérien et sa maman résistante déportée à Ravensbrück. Et c'est tous les trésors, toutes les archives qu'elle peut avoir, tous ces trésors qu'elle emmène avec elle et qui lui permettent de témoigner à des associations au niveau des écoles et que nous lui avons gentiment demandé de nous la prêter le temps de l'exposition pour aussi signifier ce qu'est la valise pour toutes ces familles aujourd'hui.
Valise, histoire d'un objet dans la guerre, exposition à voir au musée de la résistance et de la déportation de Besançon jusqu'au 4 janvier. Merci beaucoup Aurélie Cousin.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Au revoir.